Alors très très brièvement, en fait, j'ai fait un doctorat d'histoire moderne et puis également j'ai suivi un cursus de langues et cultures régionales, mention breton et langue celtique. Ça a influencé le choix de mes recherches. Et puis j'ai également fait un master d'ethnologie. Donc ensuite j'ai passé 3 ans en Amérique du Nord pour des post-doctorats. Là j'ai pu travailler en histoire religieuse sur les politiques linguistiques des missionnaires au Canada. Mais je vais revenir sur ce sujet de recherche donc que j'ai développé pour un doctorat. Finalement j'ai essayé de trouver un lien entre mes différents intérêts et entre les différentes disciplines que j'avais suivies au cours de mon cursus. Donc c'est un doctorat d'histoire, mais qui porte sur des sources qui sont en partie des sources en langue bretonne, donc qui est une langue celtique, qui n'a rien à voir avec le français. On va le voir tout à l'heure en écoutant des extraits. Et puis, j'étais intéressée par une approche ethnologique d'enquête de terrain. Et donc, c'est pour ça que j'ai travaillé sur la chanson de tradition orale en langue bretonne et son rapport à l'histoire, et plus particulièrement à l'histoire moderne. Donc, comment ces chansons pouvaient nous aider à appréhender la société bretonne des 16e, 18e siècles, et en particulier la société rurale. Alors, avant de commencer, pour se mettre dans le bain, je vous propose d'écouter un extrait d'une chanson en breton qui a été recueillie dans le Morbihan dans les années 1960 auprès d'un monsieur qui s'appelle Manu Sergent, à Guénin, plus précisément dans le Morbihan. Et on va d'abord l'écouter, puis je vais vous expliquer en quoi ça intéresse notre sujet. Voilà. Écoute un tout petit extrait, ce sont des chansons très longues, ça dure 20 minutes, parfois plus, donc c'est toujours des petits extraits qu'on va écouter. Ça a été enregistré dans ce qu'on appelle un filage, c'est une assemblée où vous avez un meneur qui chante et toute l'assemblée, comme vous pouvez l'entendre, répond à cette chanson. Alors que raconte cette chanson? C'est ça qui va nous intéresser. C'est le récit d'un marchand qui s'appelle Yvonne Bergen, qui revient d'un voyage avec plusieurs autres marchands et des charrettes chargées de trésors et de biens précieux. Et il traverse les terres du seigneur de la ville Audrin. Et donc, au moment où on écoutait cet extrait, il met en garde les marchands qui l'accompagnent en leur disant « Soyez très prudents, ce seigneur a très mauvaise réputation, nous allons donc passer très discrètement sur ces terres. » Et à ce moment-là, le seigneur de la ville Audrin arrive, les invite cordialement à dîner et pendant le dîner aiguise ses couteaux et finalement massacre tous les marchands pour récupérer leurs biens. Donc c'est une chanson qui a été encore collectée récemment dans les années 60, mais même plus récemment encore, il y a encore des chanteurs toujours vivants qui connaissent cette chanson, qui l'ont apprise de leurs parents ou de leur voisinage quand ils étaient jeunes. Et en fait on retrouve trace de ce même événement dans une enquête civile, donc dans un procès commandité par des moines bénédictins, moines de l'abbaye de Lantenac, près de Loudéac, toujours en Bretagne. Et c'est une enquête qui date de 1642. Et dans cette enquête, en fait, c'est une enquête civile autour des dégradations des propriétés de l'abbaye pendant les guerres de religion et pendant les guerres de la Ligue, donc dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Et les moines font appel à 6 témoins extrêmement âgés à qui l'on demande de raconter ce qu'ils savent sur les destructions liées donc aux propriétés de cette abbaye. Et donc ces six témoins, qui sont tous des marchands eux-mêmes de la région de Loudéac, rapportent chacun à leur manière que lorsqu'ils étaient petits ou lorsque leurs parents leur racontaient des histoires, ils ont entendu dire que, il y a bien longtemps, un seigneur, le seigneur de la ville d'Audrin, a assassiné des marchands qui traversaient ces terres. Alors il faut dire que ces six témoins sont tous très âgés, les plus jeunes ont plus de 60 ans, le plus âgé a 95 ans. Donc les faits qu'ils rapportent, hein, même s'ils sont consignés en 1642, se rapportent en réalité à la période hein, des guerres de religion, plus précisément vers 1569, époque à laquelle ce seigneur de la ville d'Audrin a été arrêté pour ses multiples exactions, a été condamné à mort et par le Parlement de Rennes et a été exécuté. Ce qui me semble très intéressant, c'est le croisement de ces deux types d'archives. Puisque, d'un côté, nous avons une chanson extrêmement détaillée sur l'action, sur les personnages, sur le déroulement de ce crime, mais cette chanson n'est pas datée. C'est-à-dire que la seule chose qu'on sait, c'est qu'elle a été recueillie à partir du XIXe siècle et qu'elle continue à être chantée au XXe siècle, mais cette chanson ne donne pas le contexte précis sur le plan chronologique de cet événement. Au contraire, l'archive judiciaire est extrêmement concise, c'est-à-dire que ces témoignages sont relativement longs, mais ils décrivent toute une série d'exactions et finalement le meurtre des marchands tient en une ligne, maximum deux lignes, dans le témoignage de ces marchands. Par contre, ces archives écrites sont précisément datées. Et donc, lorsque l'on croise ces chansons de tradition orale et ces archives judiciaires, on a finalement une approche combinée et complémentaire qui nous permet d'éclairer un fait divers hein, qui s'est déroulé donc dans la société rurale bretonne dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Je vais parler un peu plus précisément de ces chansons de tradition orale en langue bretonne, ce qu'on appelle souvent, en tout cas ce que les ethnologues appellent, des gwerzioù. Au singulier, on dit une gwerz. Ce sont ces chansons, ces complaintes tragiques qui rapportent des faits divers, souvent locaux, dans des chansons extrêmement longues. Quand je dis extrêmement longues, c'est parfois 80 couplets de 4 vers, hein, donc des chansons qui peuvent durer 20 minutes, une demi-heure. Et ce sont des chansons qui ont été massivement recueillies par les folkloristes, puis le collecteur, puis les ethnologues, hein, selon le nom qu'on leur donne, depuis le XIXe siècle, depuis le début du XIXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on continue encore à entendre ces chansons. Ces chansons ont été recueillies principalement dans les campagnes, auprès essentiellement de mendiants, de petits artisans. Et donc ce sont des histoires qui rapportent pour la plupart des récits de crimes. Des récits de crimes qui se sont déroulés bien souvent plusieurs décennies et même plusieurs siècles avant le moment où elles ont été mises par écrit par ces collecteurs. Et ce qui est très intéressant, c'est la grande précision des noms et des détails de l'action que l'on retrouve dans ces chansons en langue bretonne. Et c'est pour ça que j'ai travaillé hein, sur ce corpus de chansons en langue bretonne, parce qu'il est extrêmement riche, parce que de très nombreux collecteurs s'y sont intéressés depuis le XIXe siècle, dont le corpus est très important, et puis parce que ces chansons, bien plus que les chansons en langue française, puisqu'il y a aussi des complaintes de tradition orale en langue française ou qu'on retrouve hein, dans d'autres régions de France ou de la francophonie, bien plus que ces chansons en langue française, ces chansons bretonnes sont très longues et très précises au niveau des toponymes, des anthroponymes et du détail des actions. Autre caractéristique qui m'intéresse, c'est que ces chansons sont considérées comme des chansons qui racontent des histoires vraies par les informateurs. Alors, on dit un vrai, ou en tout cas réputé vrai, hein, est-ce que c'est vrai, on ne saura jamais, en tout cas c'est difficile de le dire, mais en tout cas c'est considéré par des informateurs comme des chansons qui racontent la vérité et qu'il faut donc transmettre très fidèlement, puisqu'il faut rester fidèle à l'événement tel qu'il s'est passé. Donc là, on a bien une originalité de la Basse-Bretagne dans ce répertoire. Basse-Bretagne, c'est-à-dire Bretagne bretonnante, Bretagne de culture celtique, l'ouest de la Bretagne. Donc une originalité de la Basse-Bretagne dans ce corpus de chansons. Alors finalement, dans le cadre de ma thèse de doctorat, ce qui m'a intéressée, c'est de réfléchir à voir en quoi ces sources orales peuvent être utilisées par l'historien moderniste pour approfondir notre connaissance de la société rurale bretonne entre le XVIe et le XVIIIe siècle de façon complémentaire aux sources écrites et dans une approche sociale et culturelle. C'est-à-dire que je me suis intéressée aux comportements et aux sensibilités dans cette société rurale. Alors la première chose dans le cadre de cette recherche de doctorat, c'est une proposition de méthode critique, d'analyse critique de ces sources orales. Puisque les historiens sont habituellement assez méfiants vis-à-vis de ces sources orales, en fait, au XIXe siècle, ces chansons sont largement utilisées par les historiens romantiques, surtout les chansons bretonnes, puisque le premier grand recueil de chansons de tradition orale publié en France est un recueil de chansons de tradition orale en langue bretonne qui s'appelle le Barzaz Breiz en 1839 par un noble, Théodore Hersart de la Villemarquet. Et cet ouvrage a eu un énorme retentissement bien au-delà de la Bretagne, même au-delà des frontières de la France. George Sand dit par exemple que le Barzaz Breiz est plus beau que l'Iliade et l'Odyssée réunies. Il y a un enthousiasme extraordinaire pour ces chansons donc dans ce contexte romantique, puisque ce recueil de chansons publié en 1839 prouve qu'en France aussi il existe une littérature orale, une littérature populaire, alors on pourra revenir sur l'usage de ce terme populaire, mais une littérature qui est aussi riche que celle d'autres pays européens précurseurs comme l'Écosse, comme l'Allemagne, qui ont déjà publié ces chansons recueillies dans les campagnes et donc qui proposent une épopée nationale finalement de ces différents pays. Par exemple, Augustin Thierry, grand historien du XIXe siècle, utilise des chansons en langue bretonne pour alimenter les sources historiques de son histoire de la conquête de l'Angleterre. Donc un retentissement bien plus large que la simple question de la Bretagne. Ceci dit, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les méthodes critiques évoluent. Les méthodes critiques modernes, entre guillemets, en tout cas méthodes critiques de la discipline historique telle qu'on la connaît au XXe siècle, se mettent en place. Et ces méthodes se mettent en place largement en rejet, en opposition à l'esprit des historiens romantiques. Pour ces historiens romantiques de la première moitié du XIXe siècle, il y a cette idée qu'il faut continuer et interpréter les documents. À la manière des archéologues qui, à partir d'un tesson de poterie, sont capables de reconstituer un vase entier, des historiens ou des chercheurs comme Théodore Hersart de la Villemarquet, des collecteurs, se disent qu'avec un fragment de chanson, ils sont capables de retrouver la chanson originelle telle qu'elle était chantée par parfois les Gaulois par les paysans bretons du Moyen-Âge, et en expurgeant ces chansons, finalement, de tout ce qui les a abâtardis au fil des siècles au cours de la transmission orale. Je reprends évidemment le vocabulaire de ces collecteurs. Donc, ces collecteurs réécrivent parfois ces chansons pour retrouver ce qu'ils pensent être la chanson originelle. Finalement, en architecture, Viollet-le-Duc, un peu plus tard, mais n'est pas si loin de cet esprit qui a aussi reconstruit les églises par rapport à une idée qu'il pouvait avoir de l'architecture romane. Donc, on a toute l'école méthodique, l'école des historiens positivistes, qui s'oppose à cette manière de faire de l'histoire, et notamment les deux théoriciens Charles-Victor Langlois et Charles Seignobos écrivent en 1898 leur Introduction aux études historiques, ouvrage dans lequel ils définissent la méthode critique qui désormais fait autorité pour l'analyse historique. Et dans cet ouvrage, ils sont extrêmement critiques vis-à-vis des sources orales. Je vous cite un extrait qui est assez éloquent de mon point de vue. L'écriture fixe l'affirmation et en rend la transmission fidèle. Au contraire, l'affirmation orale reste une impression sujette à se déformer dans la mémoire de l'observateur lui-même, en se mélangeant à d'autres impressions. En passant oralement par des intermédiaires, elle se déforme à chaque transmission. Et comme elle se déforme pour des motifs variables, il n'est possible ni d'évaluer, ni de redresser la déformation. La tradition orale est par sa nature une altération continue. Aussi, dans les sciences constituées, n'accepte-t-on jamais que la transmission écrite. Leur rapport à la source orale est extrêmement clair. Alors ensuite, hein, si on reprend la suite de notre chronologie historiographique, l'école des annales dans l'entre-deux-guerres, puis les historiens des mentalités dans les années 60 vont revenir sur les méthodes critiques de ces historiens méthodiques et vont développer un nouvel intérêt pour les sources qui permettent une approche des classes populaires, avec tous des débats autour de ce terme, de cette expression de populaire. Mais ceci dit, ces historiens, bien que intéressés par ce sujet, ont fait très peu de recherches basées sur les sources orales et encore moins sur la chanson de tradition orale. En fait, le principal théoricien et praticien de l'archive orale parmi les historiens modernistes, qui est aussi un précurseur à l'échelle de la France dans ce domaine, c'est Philippe Joutard, qui a travaillé sur la mémoire des Camisards dans les Cévennes et qui s'est intéressé beaucoup aux légendaires donc de ces protestants qui avaient résisté à la politique intolérante de Louis XIV. Donc des choses dans le domaine du légendaire, mais beaucoup moins dans le domaine de la chanson de tradition orale. Bref, il était nécessaire pour mes recherches de développer une méthode critique de l'utilisation de la chanson de tradition orale pour l'histoire moderne. C'est-à-dire passer en revue la question de la datation, de l'auteur, de la provenance de ces sources, le problème de leur vraisemblance, les difficultés liées au renouvellement des textes au fil de la transmission orale, l'influence de l'écrit dans cette transmission orale, la prise en compte des mélodies et du rapport entre la musique et le texte. Autant d'éléments que j'ai essayé de développer. Alors ceci dit, j'entrais plus avant, là j'en aurais pour plusieurs heures, donc je ne vais pas du tout entrer dans cette question méthodologique, mais si vous avez des questions tout à l'heure, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vais plutôt m'intéresser maintenant au croisement entre ces sources orales et ces sources écrites, croisement destiné à pallier le manque le plus important des chansons, qui est l'absence de datation. La seule datation qui est connue pour ces chansons, c'est celle de la collecte, c'est celle du moment où ces chansons étaient mises par écrite ou enregistrées par des collecteurs, et ce n'est jamais la date de l'événement mis en chanson, ou en tout cas de certains motifs qu'on retrouve dans les chansons. Donc il faut pallier ce manque par la confrontation des chansons avec d'autres sources écrites, et puis également la confrontation entre sources orales et sources écrites permet de mesurer la complémentarité entre deux types de sources et donc l'intérêt d'intégrer les sources orales à une analyse plus large de cette société d'Ancien Régime. J'ai surtout travaillé à une confrontation entre chansons de tradition orale et archives judiciaires. Alors je sais qu'on a déjà beaucoup parlé d'archives judiciaires dans ce séminaire, je vais en rajouter une petite couche, mais je vais quand même plus parler de chansons. Donc j'ai traité de façon sérielle deux types de corpus, d'une part environ 2200 chansons de tradition orale et de l'autre un peu moins de 600 procédures criminelles essentiellement. Alors pourquoi confronter chansons de tradition orale et archives judiciaires pour étudier donc cette société rurale? Tout d'abord parce que ces deux types de sources ont de grandes similitudes dans la recherche en tout cas des données sociales et culturelles. Ce sont des sources qui racontent le même type d'histoire, des histoires de crimes. Ce sont des sources qui donnent toutes les deux beaucoup de richesses dans la description des détails de la vie quotidienne, des comportements et des sensibilités. Dans les deux cas, ce sont des sources qui surreprésentent les mêmes milieux sociaux, en particulier la noblesse, et qui sous-représentent également les mêmes milieux sociaux, notamment les catégories les plus pauvres. Et puis, dans ces deux sources, on trouve un même souci de vraisemblance dans le discours qui est proposé. Dans le cas des chansons, ces chansons, je vous l'ai dit, prétendent raconter des histoires vraies, et la plupart du temps, effectivement, ce sont des histoires vraies, des faits divers qui sont racontés. Le but étant de convaincre un auditoire de chanteurs qui connaît l'histoire, de chanteurs ou d'auditeurs qui connaît l'histoire, pour certains, ils connaissent aussi la chanson, et lorsque la fin n'est pas bien interprétée, on a des informateurs collectés par les ethnologues qui disent qu'ils intervenaient pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec la façon dont la chanson avait été interprétée. Donc il faut rester fidèle et convaincre l'auditoire. Et puis de l'autre côté, dans les archives judiciaires, on est dans le même cas de figure, on a des accusés et des plaignants qui doivent aussi présenter un discours vraisemblable, à défaut d'être vrai, en tout cas vraisemblable, pour convaincre les juges de leur bonne foi et obtenir finalement gain de cause dans le procès. Donc de grandes similitudes entre ces sources. En même temps, ce qui est encore plus intéressant que les similitudes, ce sont les différences qui renforcent l'intérêt de la comparaison. Différences. Dans certains cas, les chansons rapportent des faits qui n'ont pas laissé de traces ou qui ont laissé peu de traces dans les archives judiciaires, et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, il est possible qu'on n'ait pas de traces dans les archives judiciaires à cause des lacunes de la conservation des fonds. C'est surtout vrai pour les affaires antérieures au premier tiers du XVIIe siècle, où les fonds, les archives judiciaires en particulier, sont très lacunaires. C'est également possible que les chansons nous rapportent des faits qui n'ont pas été, dont on n'a pas de traces dans les archives écrites, tout simplement parce que les affaires dont il est question n'ont pas été portées devant les tribunaux. Deux cas de figure. Ces affaires n'ont pas été portées devant les tribunaux du fait des protagonistes qui sont impliqués. On se rend compte, et ce n'est pas uniquement le cas en Bretagne, on se rend compte lorsqu'on étudie ces archives judiciaires, que les catégories sociales les plus pauvres sont largement sous-représentées en justice, tant du côté des victimes que des accusés, tout simplement par manque de moyens financiers. Même lorsque des violences sont connues et que le procureur fiscal est alerté, il n'y a pas forcément constitution de partie civile si la victime est pauvre. Le cas typique, c'est la servante qui est violentée par un client de la taverne ou dans un champ. Si la victime est pauvre et si l'agresseur n'est pas solvable, les officiers de justice hésitent à se mobiliser pour des affaires peu lucratives. La deuxième chose, c'est que ces archives, ces affaires ont pu ne pas être portées devant les tribunaux, non pas du fait des protagonistes impliqués, mais du fait de la nature des crimes commis. Certains crimes sont largement sous-représentés dans les archives judiciaires, par exemple les viols, les suicides, les infanticides. Par contre, on les trouve beaucoup plus présentes dans les chansons. Alors, dans le cas de viol ou de suicide, c'est l'honneur à la fois individuel et familial qui est mis en cause. Le suicide est considéré sous l'Ancien Régime comme un meurtre de soi-même et donc jugé comme tel. Alors, c'est évidemment la honte pour toute la famille. Puisque les cadavres sont embaumés, sont jugés pour meurtre, on nomme un curateur pour parler à la place du cadavre et prendre sa défense. Et habituellement, ils sont condamnés pour meurtre. Et donc, les corps sont démantelés et exposés publiquement. Évidemment, pour l'honneur familial, c'est extrêmement mauvais. Ce qui explique que les familles cherchent à étouffer les affaires, soit dans le cas des suicides, en les déguisant en accident, soit dans le cas des viols, en essayant d'obtenir des compensations au cours de négociations orales. Et là, je vais entrer sur un terrain qui a été abordé par Benoît Garneau lors de la dernière séance, qui est le terrain des pratiques infrajudiciaires. Alors, je vais prendre un exemple concret de chanson qui a trait non pas à un viol, mais à un rapt de séduction concerne une jeune fille qui s'appelle Margodic, la Boissière, et qui va nous permettre de voir en quoi ces chansons peuvent être utiles pour alimenter notre connaissance des pratiques infrajudiciaires. Donc c'est une version qui a été recueillie dans le Trégor, donc cette fois dans le nord de la Bretagne bretonnante, les actuelles Côtes d'Armor. Encore on s'arrête, on a à peine présenté les protagonistes, il y en a encore pour 25 minutes, alors j'exagère mais presque pas. Donc que raconte cette histoire? C'est l'histoire d'une jeune fille noble, donc Marguerite Yvonne de la Boissière, de son nom de baptême, donc qui vient d'un village du Trégor qui s'appelle Plougonvert, qui est séduite par un roturier qui l'enlève. Et les parents vont œuvrer pour récupérer leur fille, ils finissent par la récupérer et ils l'envoient au couvent. Encore une fois, la chanson n'est pas datée, le texte de la chanson ne nous propose pas de date, mais en recoupant différentes archives écrites, registres paroissiaux, archives conventuelles et autres, ça nous permet de situer l'événement vers 1762. Par contre, je n'ai jamais réussi à retrouver de procès qui parle de cette histoire. Alors, est-ce que les archives ont été détruites ? Peut-être, mais il est fort possible, il serait même assez logique, que cette affaire n'ait jamais été portée devant les tribunaux. En tout cas, si on se fie à ce que nous dit la chanson, c'est ça qui s'est passé. C'est un règlement oral, un règlement infrajudiciaire qui se met en place. Ce qui est très intéressant, me semble-t-il, dans cette chanson, c'est que le texte de la chanson décrit avec une grande précision toutes les étapes de ces négociations orales en nous montrant la pluralité des possibilités de négociation qui sont utilisées par la famille. Donc tout d'abord, il y a des transactions directement entre la famille noble et le ravisseur, transactions qui se situent à l'auberge autour d'un verre de vin, hein, lieu de pratique de sociabilité par excellence, donc une transaction de type parajudiciaire, c'est-à-dire uniquement avec sans médiation d'un tiers, hein, uniquement la famille et le ravisseur. Échec de cette première tentative, la famille noble fait alors appel à la médiation du curé. Le curé étant le médiateur privilégié pour ce type d'affaires sous l'Ancien Régime. Donc là, on rentre plus précisément dans des négociations de type infrajudiciaire, donc avec médiation d'une tierce personne. Et puis au départ, là encore, ça ne réussit pas très bien. On menace de recourir à un procès devant les tribunaux. Et puis finalement, l'affaire s'arrange. Et par une ruse, je vous passe les détails, ils réussissent à récupérer leur fille. Donc là, on a une chanson qui nous décrit très bien la pluralité judiciaire dans la résolution du conflit. Et on a une source, la chanson, qui nous permet de mettre en scène de façon extrêmement concrète, vivante et crédible des faits que l'on ne retrouve pas dans les archives écrites, puisque par définition, ce sont des négociations orales. Alors il faut bien dire que dans certains cas, certes exceptionnels, la source orale paraît même plus fiable que la source écrite. Ce qui nous donne à réfléchir sur la confiance qu'on accorde généralement en tant qu'historien à ces sources écrites. Alors là, je vais me référer à une étude tout à fait remarquable et qui a fait date de l'ethnologue Donatien Laurent, qui a travaillé sur une complainte, qui est la complainte de Louis Le Ravalec, Loïse Ravalec en breton, donc un jeune homme du Faouët, donc on est encore dans les campagnes cette fois du Morbihan. Et donc Donatien Laurent a fait de très nombreuses enquêtes de terrain dans les années, à la fin des années 50 et dans les années 1960, autour de cette complainte qui était encore bien connue. Et il a mis cette affaire en parallèle avec une très volumineuse affaire criminelle qui a été instruite par la sénéchaussée d'Enbon, qui est conservée donc dans les archives départementales du Morbihan en 1732, exactement sur le même événement. Ce qui est très intéressant dans cet exemple, c'est que donc au moment où cet ethnologue Donatien Laurent fait ses enquêtes, la mémoire orale est encore très vive. C'est-à-dire que les gens autour du Faouët qui l'interrogent connaissent toujours la chanson, mais ils font également des commentaires en prose autour du récit, autour des protagonistes, autour du détail de l'action. Ils commentent des lieux, des bâtiments, des maisons qui sont toujours là où a vécu tel ou tel protagoniste. Donc la présence de bâtis alimente aussi cette mémoire orale. Et puis finalement, en écoutant tous ces commentaires concordants, de nombreux informateurs qui ne se connaissent pas entre eux, certains de ces commentaires permettent de régler des questions qui ne sont pas réglées dans le procès. En fait, alors il a fait une étude très minutieuse de ce procès. Le procès dure 4 ans, il aboutit à un non-lieu. Or, l'examen de la procédure montre un certain nombre d'irrégularités. Des témoins essentiels ne sont pas interrogés, d'autres qui font des dépositions plutôt dérangeantes ne sont appelés que 3 ans après le début des procédures, et malgré les plaintes répétées du père de la victime, le procureur fiscal fait traîner l'affaire. De toute évidence, le renvoi hors d'accusation s'explique par des intérêts personnels. Il se trouve que les accusés appartiennent à une famille très liée aux officiers de justice du Faouët. Donc finalement, on a là un cas où la justice, et ce qu'on en sait par les archives écrites, ne punit pas les coupables, là où la chanson donne précisément le nom des coupables et le détail du meurtre. 250 ans après cette affaire, la mémoire orale a conservé une version des faits qui apparaît plus proche des événements que les archives écrites dans un contexte de dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. cas, je vous l'accorde, certes, exceptionnel. Donc on retrouve bien là d'ailleurs une des fonctions de la chanson, hein, qui est de donner la parole aux petits face aux puissants, également de rétablir la justice lorsque la justice n'est pas faite ou lorsque la justice est mal faite. On a là, grâce à la chanson, un pouvoir assez subversif, hein, puisque la chanson de tradition orale, par définition, est difficilement contrôlable puisqu'elle circule oralement. Plus généralement, un autre intérêt de la confrontation entre archives judiciaires et chansons, c'est que ces deux types de sources sont toutes les deux des sources narratives, qui racontent des histoires, mais qui obéissent à des codes différents. C'est-à-dire qu'elles vont décrire des mêmes faits ou les mêmes types de faits, des histoires de crimes, mais de façon différenciée. Dans la chanson, on est dans une source littéraire, donc la chanson obéit à des canons en partie poétiques, là où l'archive judiciaire obéit à des canons juridiques. Ça se voit par exemple dans la description du sang. Lorsque vous lisez des archives criminelles, la présence du sang est absolument incontournable puisque le sang a un prix, hein, sur le plan juridique. Hein, une violence avec effusion de sang permet d'obtenir une meilleure compensation que s'il n'y a pas effusion de sang. Ce qui fait que lorsqu'on lit ces descriptions, hein, il y a du sang qui coule à profusion dans ces plaintes ou dans ces dépositions de témoins écrites. Alors que dans les chansons, alors certes, on peut avoir des fois des descriptions de sang liées à des images poétiques, mais bien souvent, on a un phénomène d'ellipse de cette description, c'est-à-dire on ne décrit pas le moment du meurtre. Toujours dans ces codes différenciés, la Goerz, donc la complainte, obéit à des canons esthétiques particuliers à un genre littéraire qui est un genre sérieux, un genre tragique, on est dans de la complainte, et donc un genre qui exclut toute trivialité. Vous avez extrêmement peu d'injures dans les chansons. Vous avez très peu de personnes ivres. Vous avez très peu de tavernes où l'on boit, autant d'éléments que l'on retrouve de façon omniprésente dans les archives judiciaires. Vous avez également très peu de gens qui travaillent dans les chansons. Très peu qui sont dans la misère, ou s'ils sont dans la misère, ils ne sont pas vraiment malheureux. On a cette forme de belle pauvreté qu'on le retrouve dans la chanson. Alors qu'au contraire, dans l'archive judiciaire, on va montrer qu'on est au travail, justement, puisque c'est un alibi pour montrer qu'on n'a pas commis le meurtre. Finalement, on a là deux types de sources, les chansons et les archives judiciaires, qui nous proposent chacune un regard partiel et partial sur une même réalité sociale. Il n'y en a pas une qui a raison, l'autre qui a tort. Ce sont simplement deux sources très complémentaires pour étudier cette société rurale. Alors, quel tableau, maintenant plus précisément, peut-on dresser des conflits et des violences dans les campagnes bretonnes à travers le croisement de ces sources, donc croisement des chansons avec des sources écrites, archives judiciaires, mais aussi plus largement, on peut ouvrir à d'autres types de sources écrites. Les chansons, ces complaintes racontent des récits tragiques, donc forcément le conflit et la violence sont au cœur de ces histoires. L'intérêt peut-être de ces chansons par rapport à beaucoup de sources écrites, c'est qu'elles proposent une mise en scène extrêmement concrète, extrêmement vivante, avec la présence de dialogues, de situations, de tensions sociales. Sont-elles vraies, ne sont-elles pas vraies finalement? C'est pas ça qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est qu'elles sont vraisemblables, qu'elles sont crédibles dans le contexte de l'Ancien Régime et de ses normes sociales. Alors évidemment, on a, comme dans les sources écrites, énormément de mentions sur l'atteinte à l'honneur. On est dans une société d'Ancien Régime, dans une société d'honneur qui a bien été étudiée par les historiens. Donc la violence est là une réponse à l'honneur blessé, et le conflit permet de mesurer à la fois les normes comportementales et les écarts à cette norme. Donc on a là des chansons qui sont complémentaires par rapport à d'autres sources où l'on retrouve des mentions similaires, donc autour des gestes du respect, autour de l'atteinte à la coiffure, très importante, autour de l'honneur féminin. Autant de thèmes que l'on retrouve à la fois dans les archives écrites et dans les chansons. On a également beaucoup de récits qui nous parlent de rivalités sociales qui sont à la source de conflits. En particulier, beaucoup de chansons s'intéressent aux tensions entre la petite noblesse pauvre, ce que certains historiens comme Michel Nassier ou Jean Meyer qui ont travaillé là-dessus qualifient de plèbe nobiliaire, donc petite noblesse pauvre qui n'arrive pas à maintenir son rang, qui doit parfois travailler, qui a un mode de vie finalement qui s'éloigne des canons de la noblesse. Et donc cette noblesse pauvre est très présente en Bretagne. C'est favorisé par la coutume de Bretagne qui désavantage fortement les cadets dans les héritages. Donc d'un côté, on a tension entre cette petite noblesse pauvre et la paysannerie aisée qui s'est enrichie et qui aspire à monter dans l'échelle sociale. Et donc pour cela, cette paysannerie aisée envoie ses fils aux études, ce qu'on appelle les cloarecs, les clercs, mais clercs dans le sens breton du terme, c'est-à-dire ce ne sont pas des ecclésiastiques, ce sont des jeunes hommes qui font des études, peut-être vont-ils devenir prêtres, mais certains arrêtent leurs études avant. Donc ces jeunes clercs, ces jeunes cloarecs sont très présents dans les chansons. Et on va écouter un dernier extrait de chanson qui nous parle de ces tensions, hein, d'une affaire de duel entre un clerc, donc un fils de paysan enrichi, et un noble qui n'arrive pas à tenir son rang. Parfait, c'est bon. Voilà, le chanteur qu'on entend chanter, qui est un très grand chanteur, qui s'appelle Jan van Schemener, c'est un jeune chanteur qui a fait beaucoup de collectes auprès des anciens en Centre-Bretagne, auprès desquels il a appris ses chansons. Alors, que nous raconte ce récit? C'est donc une complainte très largement diffusée que l'on retrouve partout en Bretagne, qui est connue sous le nom du duel à l'Aire Neuve. Alors, l'Aire Neuve, qu'est-ce que c'est? C'est un lieu de sociabilité essentiel dans les campagnes bretonnes. C'est un espace de travail et de festivité autour de la réfection des aires à battre. Et donc, c'est à cette Aire Neuve que se déroule ce duel, donc entre un cloarec, un jeune homme, un clerc au sens breton, et un noble peu fortuné pour obtenir les faveurs d'une jeune héritière roturière, ce qu'on appelle les penéres en breton. Et donc c'est une chanson qui se rapporte à un fait divers qui s'est déroulé dans le premier tiers du XVIIe siècle. Ce qui m'intéresse ici, c'est que cette chanson décrit avec précision le conflit et comment ce conflit porte sur une question de rang et d'honneur et donc révèle des enjeux de distinction. Notamment, cette chanson décrit très précisément le vêtement comme marqueur social et source de conflit. Dans une des versions qui a été recueillie au XIXe siècle, on a plusieurs dizaines de versions de cette chanson, sur 77 distiques d'octosyllabes, donc sur 77 couplets, on a 35 vers qui décrivent uniquement ces chansons. Là, c'était des couplets de deux vers. Donc là, vous multipliez ce qu'on a entendu par 7 ou 8, et vous avez uniquement la description des vêtements, à la fois du jeune homme paysan et du noble. On est dans une situation d'honneur blessé. Le noble a des habits moins riches que celui du roturier, et les passants remarquent cette différence de richesse, en tout cas la richesse qui n'est pas proportionnelle au rang. On a d'un côté le cloarec, qui par son habillement révèle sa tentation à outrepasser son rang, et de l'autre côté, pour le noble, l'impossibilité financière à maintenir son propre rang. Ce qui fait que le noble provoque le clerc en duel, ce qui est une façon de recentrer la question du rang sur un terrain plus favorable à la noblesse en sollicitant une pratique noble par excellence qui est le duel. Et d'ailleurs, le clerc au début refuse de se battre en estimant qu'il est contre nature pour devoir un paysan combattre un noble. D'ailleurs, cette différence de rang se voit bien dans l'armement qui souligne l'inégalité du combat, puisque le noble se bat à l'épée, au fleuret, et le paysan au penbaz, c'est-à-dire le bâton à bout ferré, qui est l'arme des paysans par excellence. Alors, selon les versions, le clerc est tué, ou, c'est le plus souvent le cas, ou il tue son adversaire. Donc là, on a là un exemple qui, me semble-t-il, révèle bien des tensions caractéristiques de la société d'Ancien Régime, rang et honneur, tout en déclinant l'exemple autour de quatre figures plus spécifiques à la Basse-Bretagne, avec ce poids des cloarecs et de la plèbe nébillière. Alors le temps file, donc je ne vais pas évoquer un autre point dont je voulais parler, qui est le lien entre mobilité sociale et conflit dans les communautés rurales. On a également un certain nombre d'éléments dans ces chansons. Mais je vais m'intéresser plus spécifiquement à une particularité propre à la société bretonne que l'on retrouve dans ces récits de violence et de conflits dans les sociétés, dans les campagnes bretonnes et donc dans les chansons à ce sujet. C'est le conflit qui tourne autour de ce qu'on appelle les caqueux ou les caquins, qui sont des prétendus descendants de lépreux. C'est un groupe d'exclus tout à fait original, qui est comparé par le voyageur Cambry, qui fait un grand tour en Bretagne en 1794, qui est comparé au paria de l'Inde. On est un petit peu dans la même problématique, de prétendus malades, qui sont mis au banc de la société, et ce jusqu'à la fin du XIXe siècle, et même dans certains endroits plus tard, donc dans de nombreuses communautés rurales, qui sont vraiment les boucs émissaires, alors que la lèpre a objectivement disparu de Bretagne depuis plus de trois siècles. On a même un mystère breton du XVIe siècle, un mystère, c'est-à-dire une pièce de théâtre religieuse qui s'appelle « La destruction de Jérusalem », a priori rien à voir avec la société bretonne, mais ce récit de la destruction de Jérusalem nous cite les trois plaies de la Bretagne, et puis comme on était à Caen, je trouvais ça intéressant, puisque la première plaie, ce sont les caqueux, ces descendants de lépreux, la deuxième, c'est les Anglais, et la troisième, c'est les Normands. Ça me paraissait d'actualité ici. Donc on a de très nombreuses violences qui sont attestées dans les archives écrites autour de ces caqueux. Ça va très loin, ça va jusqu'au refus d'enterrer les corps des caqueux en terre consacrée, et lorsqu'ils sont enterrés, certaines communautés villageoises reviennent la nuit pour déterrer les corps et les mettre hors de la terre consacrée. Ils sont également rejetés hors des églises. Il y a encore certaines églises en Bretagne où on voit bien la petite fenêtre en pierre qui permettait aux caqueux d'assister depuis l'extérieur aux cérémonies de l'église. Donc on a vraiment un phénomène important que cette mise à l'écart des caqueux. Et on a dans ces chansons de tradition orale de nombreuses mentions qui se rapportent à ce rejet des caquins. Union mal assortie, où une jeune fille épouse un caquin sans le savoir et donc est mise au banc de la société, par exemple. Je voudrais également évoquer un autre cas de violence dans les campagnes rurales. Ce sont les violences liées à des conflits armés qui dépassent là vraiment le fait divers local. En fait, il est frappant de constater le nombre de complaintes en langue bretonne qui se rapportent à certains événements traumatiques de l'histoire de la Bretagne, en particulier aux guerres de la Ligue dans la dernière décennie du XVIe siècle. Donc très rapidement, pour ceux qui ne voient pas bien ce que c'est que la guerre de la Ligue, donc en gros le conflit qui a dégénéré en guerre civile entre les partisans d'Henri IV, protestants convertis allant sur le trône, donc côté royaliste, et du côté des ligueurs, des ultra-catholiques qui refusent qu'un protestant même converti aille sur le trône. Ça dégénère en guerre civile à l'échelle du royaume de France, et la Bretagne est particulièrement concernée par ces guerres civiles. Donc c'est vraiment un événement traumatique qui a marqué les esprits, puisque plus de 4 siècles quand même après les événements, on a encore des chansons toujours bien connues qui circulent dans la mémoire orale. J'ai relevé presque 90 versions de chansons qui se rapportent à ces récits. Je dis versions de chansons puisque parfois c'est la même histoire mais déclinée dans différents endroits, donc versions. Alors on a des récits de sièges de ville, et surtout des récits de forfaits de chefs de bande, d'exactions de chefs de bande qui ravagent la Bretagne des deux côtés, que ce soit du côté ligueur ou du côté royaliste. En fait, ces chansons qui ont été conservées dans la tradition orale ne décrivent pas par le menu tous les ravages, elles ne défendent pas une position politique précise, mais elles se concentrent bien plus sur un événement tragique, événement qui continue à faire sens même plusieurs siècles après les événements. C'est-à-dire qu'au XIXe ou au XXe siècle, ces chanteurs n'ont plus conscience que les chansons qu'ils chantent se rapportent à la guerre de la Ligue, c'est-à-dire le contexte historique premier de ces chansons a été oublié, mais le récit garde une force émotionnelle parce qu'il raconte finalement un drame humain qui peut être transposable dans d'autres situations. Et ça permet de continuer la transmission orale, et ça permet d'expliquer que ces chansons sont toujours chantées, même si au XXe siècle, évidemment, les guerres de la Ligue, ça ne touche plus personne. Alors on a des récits, par exemple, sur René de la Tremblay, capitaine royaliste, bien connu pour ses multiples brigandages et exactions en Bretagne. Mais les chansons qui parlent de ce même individu évoque un seul événement qui n'est d'ailleurs pas recensé dans les archives écrites qu'on a conservées, qui est l'enlèvement d'une jeune fille le jour de ses noces, qui se suicide plutôt que d'être déshonorée. Drame humain qui continue à avoir sens, même dans un contexte autre. Également, un autre personnage qui apparaît très fréquemment, c'est Guy Eder de La Fontenelle, chef de bande ligueur, de l'autre côté cette fois, dont les mémoires des contemporains décrivent les interminables exactions. Vraiment, toutes les sources sont unanimes. Meurtre, incendie, pillage d'église, destruction du très riche port de Pinmar qui va en fait jamais se relever de ce sac. Mais les chansons retiennent là encore des événements bien plus précis. C'est l'enlèvement d'une jeune fille qui l'épouse, ce qui est attesté d'ailleurs dans les sources, et surtout la condamnation de la Fontenelle pour ses forfaits et son exécution à Paris. Ce qui est intéressant, c'est que autant les sources écrites contemporaines des événements nous proposent une vision extrêmement négative de la Fontenelle, autant dans la chanson, le personnage est héroïsé par sa mort sacrificielle sur l'échafaud. C'est-à-dire que la souffrance liée à l'exécution lui permet d'expier ses péchés. Et on rejoint là un mécanisme, un lien entre souffrance et héroïsme que l'on retrouve plus largement dans les interprétations des historiens sur les rituels de l'exécution publique en France, tel qu'analysé également par les sociologues et les anthropologues. Je voudrais peut-être pour terminer évoquer un dernier événement, un autre événement traumatique dans les campagnes bretonnes. Beaucoup plus récent, c'est la révolution et surtout la contre-révolution qui a notamment marqué le répertoire des régions impliquées dans la chouannerie, en particulier le Vannetais, dans le Morbihan. En fait, on assiste là à un phénomène de chouanisation de la mémoire orale bretonne. Philippe Joutard, lorsqu'il étudie la mémoire des camisards dans les Cévennes, parle de camisardisation du souvenir, de la mémoire de ces événements du début du XVIIIe siècle. Je pense qu'on peut parler de la même manière de cette chouanisation de la mémoire bretonne, c'est-à-dire qu'on a des événements qui sont antérieurs à la Révolution ou qui sont postérieurs à la Révolution, mais dans la mémoire orale, dans le souvenir collectif, ces événements sont associés à la période révolutionnaire, ce qui permet de leur garder une actualité. Donc période révolutionnaire et surtout contre-révolutionnaire. Donc on a par exemple des récits qui se déroulent historiquement parlant pendant les guerres de la Ligue, mais certaines versions des chansons nous réinsèrent ces chansons dans le contexte de la Révolution. Ou par exemple des chansons sur le complot du marquis de Pontcallec en 1720. Je ne sais pas si certains ont vu le film Que la fête commence, qui parle de ce complot. Ça se déroule en 1720, mais des chansons nous disent que le marquis n'a pas été arrêté par des dragons du roi, mais par des chouans. Ce qui permet de donner une actualité, de continuer à garder du sens pour ces chansons, même lorsque le contexte premier est oublié. Donc finalement, pour conclure, on a là une source, la chanson de tradition orale, recueillie depuis le XIXe siècle, qui comporte à la fois de très nombreux archaïsmes, c'est-à-dire bien que recueillies au XIXe et XXe siècle, elles évoquent essentiellement la société rurale des XVIe, XVIIIe siècles, avec une grande précision des descriptions qui permettent, je crois, vraiment d'approfondir notre connaissance sociale et culturelle de la Bretagne d'Ancien Régime. Mais en même temps, il ne faut pas oublier non plus que la mémoire orale agit sur ces chansons. On est toujours dans un contexte de tension entre conservation et renouvellement, entre stabilité et variabilité des éléments qui sont dans la chanson. Certains sont conservés, certains se renouvellent, d'où l'intérêt de confronter différentes versions connues de la même chanson et évidemment de confronter avec les sources écrites. Cette action de la mémoire orale, de mon point de vue, n'invalide pas du tout l'utilisation de ces sources pour les historiens. Tout d'abord, parce que il faut prendre une précaution essentielle qui est de toujours confronter ces sources avec les archives écrites. Nécessaire, c'est dans une perspective historique, ces sources ne peuvent se suffire à elles-mêmes pour une étude de la société bretonne. D'autre part, une approche culturelle de ces sources permet de s'intéresser certes aux événements, mais aussi à ces représentations collectives. Et également, la mémoire en tant que telle peut être objet d'histoire, et les écarts à la mémoire nous intéressent en tant qu'historiens. Elle nous renseigne à la fois sur les comportements et le fonctionnement des sociétés d'Ancien Régime, mais aussi sur le comportement et le fonctionnement des sociétés du XIXe et du XXe siècle, auprès desquelles ont été recueillies ces chansons. Je vais m'arrêter là, puisque je crois que mon temps de parole est terminé. Voilà. Merci.